de Dieu. Aujourd'hui, nous retournons à Jérusalem, au jour où, il y a plus de 2000 ans, Jésus, rejeté par les hommes, abandonné de Dieu, suspendu entre ciel et terre, agonisant dans une indescriptible solitude, expiant notre péché dans l'angoisse et le tourment de l'enfer, a été anéanti par la colère de Dieu. Au terme de son calvaire, poussant un cri de délivrance, tout est accompli. Il expira sereinement, remettant son esprit entre les mains bienveillantes de Dieu, son Père. Son œuvre de rédemption était consommée, terminée. Son triomphe évident et éclatant sur le serpent ancien, Satan, l'adversaire acharné de Dieu, ne souffre aucune discussion. Il est parfait et complet. Le salut du monde est achevé, il est réel et éternel. Enfin, vers le soir, à l'heure où l'on prépare la fête de Pâques, Jésus, enveloppé d'un linceul blanc, fut enseveli dans le sépulcre d'un homme riche, appelé Joseph d'Arimathée. Et il était aussi disciple du Seigneur. La lourde pierre a été roulée devant l'entrée du tombeau et scellée par les autorités romaines de peur que les disciples ne s'emparent du corps de leur maître. Alors, la nuit tomba sur Jérusalem. La troupe des disciples s'enferma à double tour dans une chambre haute, et le cœur rempli de tristesse. Ils ne savaient que penser des événements qui venaient de se produire. Ils étaient désemparés, saisis par une grande détresse, accablés par la mort de Jésus, leur maître bien-aimé. Mais voici, tandis qu'il faisait encore sombre, juste avant l'aube du premier jour de la semaine, comme un éclair qui jaillit du ciel, l'Esprit Saint manifesta la puissance de Dieu et le Fils ressuscita d'entre les morts. Il s'éleva hors de la tombe, plein de vie, éblouissant de lumière, resplendissant de la gloire céleste qui est la sienne. Dès lors, tout genou fléchira et toute langue confessera à la gloire de Dieu le Père que Jésus est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Souverain Maître de tout l'univers. En effet, ce n'est pas un homme quelconque qui est réveillé du sommeil de la mort comme Lazare pour revenir à la vie comme une commune journalière, ou comme toute autre personne qui a été relevée de la mort pour vivre encore de la vie terrestre jusqu'à sa mort effective et définitive. Non, pas du tout. Mais celui que Dieu ressuscite, c'est Jésus, son Fils unique et bien-aimé, le premier-né d'entre les morts, le Prince de la vie. C'est son Fils dans la grandeur et la splendeur de la parole créatrice, toute puissante, qui soutient toute chose. C'est l'héritier du trône, de la majesté divine, dans toute sa beauté et dans toute sa félicité. C'est le Seigneur de l'Église qui régnera sur l'univers et qui héritera toutes choses. Il est aussi le reflet de la gloire de son Père, de cette gloire merveilleuse qui éclate en ce jour de résurrection, dans toute sa magnificence, plus étincelante que le soleil en plein midi. Quelle gloire! Il est encore l'empreinte de sa personne, empreinte réelle, visible, tangible, de la perfection divine révélée au monde entier. Frères et sœurs, c'est sublime, c'est solennel. L'Éternel, je suis, se montre enfin se montre enfin dans le Fils et se démontre par la puissance prodigieuse et glorieuse de la résurrection que, selon que Jésus l'a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Les jours de larmes sont passés. Une joie indicible envahit les disciples. Et après la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint, ils proclamèrent dans tout Jérusalem que Jésus est à moitié vivant. Que Jésus est vivant. Ils affirmèrent que le Christ, livré pour être crucifié selon la volonté de Dieu, est ressuscité par la gloire de Dieu, car les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir dans la tombe. En effet, comment le Seigneur de la vie, qui d'une manière mystérieuse pour nous, s'est livré à la mort pour expier le péché du monde, pouvait être retenu par elle, par la corruption, puisque l'Écriture affirme que la mort sera finalement englouti dans la victoire de la croix, afin que la vie soit mise en évidence par la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, une chose était pour le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, de mourir sur la croix physiquement, d'endurer ce supplice cruel, cette mort atroce. Autre chose, infiniment autre chose, était pour Jésus-Christ de mourir spirituellement, loin de Dieu son Père, dans une angoisse intense et dans les tourments de l'enfer. Et il a fait l'un et l'autre pour nous sauver, toi et moi. Mais c'est encore mille et mille fois autre chose, immensément, indéfiniment autre chose, pour lui de ressusciter d'entre les morts. Car autant il était défiguré par le péché, méconnaissable, tellement le châtiment qu'il a porté l'a détruit et anéanti, autant il retrouve maintenant, par la résurrection, son être glorieux, majestueux, son image divine, sa personne ineffable. Et il retrouve aussi son trône, sa couronne céleste, la puissance, l'honneur et la gloire de son règne, élévation souveraine qu'il s'est acquise par son abaissement volontaire dans l'abîme du péché. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ est l'événement le plus extraordinaire, le plus spectaculaire qui puisse exister, car il manifeste la vie divine dans son essence pure. Il met en évidence la vie du Dieu trois fois saint au grand jour, aux yeux de tous. C'est de la part de Dieu, pour Jésus, son Église et son épouse, ce qu'il y a de plus inouï, de plus incroyable. Car plus prodigieux, plus spirituel, plus perpétuel encore que la création, puisque celle-ci disparaîtra. C'est le triomphe éternel de la croix sur le péché et la mort, proclamé à la face du monde entier. C'est l'œuvre admirable, incomparable de la rédemption scellée par le sang de Christ. C'est le salut des élus, assuré par le ressuscité pour le temps et pour l'éternité. C'est le miracle de la grâce, c'est l'amour éternel de Dieu qui, par l'agneau immolé, expie le péché du monde et, par le lion de Juda, se relève d'entre les morts pour donner à tous les élus, rachetés par le sang de Jésus, une vie nouvelle, la vie de résurrection qui est en Christ. C'est la puissance de vie qui est en Dieu et qui délivre les croyants de la loi du péché et de la mort pour les faire vivre par l'Esprit dans le chemin d'amour et de paix que Dieu a tracé pour eux depuis toujours. Et enfin, C'est le ciel ouvert, la maison du Père, aménagée pour le repos éternel de ses enfants, rendue semblable à son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. D'ailleurs, c'est ici son dessein pour eux, dès avant la fondation du monde, et c'est pour eux que Jésus s'est donné, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est encore, et c'est triste à dire, pour tous ceux qui fermeront les yeux devant une telle résurrection, devant une telle abondance de vie, et qui se boucheront les oreilles à l'écoute d'un évangile si grand, si puissant, et qui de surcroît, par incrédulité, rejetteront cette réalité, refuseront cette vérité, cette résurrection divine si extraordinaire, ce sera hélas pour eux la preuve de leur condamnation régulière, car volontairement assumée. L'histoire de l'homme riche et de Lazare nous instruit à ce sujet. L'homme riche avait mené joyeuse et brillante vie. Il s'imaginait peut-être, puisque ses richesses lui permettaient de diriger sa vie à sa guise, qu'il serait également maître de son destin. Par conséquent, à quoi bon s'inquiéter de son salut? D'ailleurs, pouvait-il exister, au-delà de son propre univers, un paradis plus excellent que cet Éden splendide et somptueux qu'il s'était créé? À ses yeux, une telle possibilité était impensable, inimaginable. Ce serait la pure fiction d'une illusion débile produite par un cerveau malade. Pourtant, son réveil brutal dans l'au-delà l'obligea à se rendre à l'évidence. Il avait tort, cruellement tort, affreusement tort. Son sort était fixé. Désormais, pour lui, c'était trop tard. Effectivement trop tard. Définitivement trop tard. Et pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus est une criante réalité. Elle confirme tout ce qu'il a voulu rejeter loin de lui. En particulier le jugement éternel qu'il avait décidé d'ignorer, à l'instar de tant d'autres qui se sont abusés eux-mêmes. Mes chers amis, si la résurrection n'existe pas, comme l'affirment les moqueurs, alors Jésus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, il est venu pour rien. Le monde est encore dans son péché, perdu pour l'éternité, vous et moi y compris. C'est pourquoi nous voulons considérer ceci. Quand Jésus, mourant sur la croix, affirma aux brigands repentants « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », ce paradis ne serait-il qu'une illusion ? Il aurait goûté la mort, la plus atroce qui soit, porté le châtiment le plus épouvantable qui soit, accepté d'être éloigné de Dieu son Père pour offrir à tous ceux qui croient une illusion. Si le paradis est une illusion, alors il n'y a pas de plus grande folie que la croix de Jésus-Christ, et les détracteurs de l'Évangile auraient raison de dire que Jésus est l'homme le plus fou qui ait jamais marché sur la terre. Quand Étienne, le premier martyr chrétien, quelques instants avant de mourir, lapidé pour sa foi, s'était crié « Je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce ciel ouvert, ce Jésus debout à la droite de Dieu, ne serait-il qu'une illusion ?» Si oui, Étienne se serait laissé lapider pour une illusion. Si Jésus est sa résurrection, si Dieu est son ciel, si la vie éternelle ne sont qu'illusions, alors il n'y a pas plus fou qu'Étienne. Quand l'apôtre Paul a été enlevé au troisième ciel, où il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, ce paradis, ces paroles, ce ciel de gloire, ne serait-il qu'une illusion ? Autrement dit, le grand apôtre aurait souffert le froid, la faim, la nudité, il aurait supporté d'être battu, maltraité, persécuté, sans parler du fait qu'il était constamment en danger de mort, poursuivi par des gens sans scrupules qui en voulaient à sa vie, et tout cela après qu'il fut enlevé au troisième ciel, paradis qui ne serait qu'une illusion. Si les révélations qu'il a reçues, si la résurrection qu'il a proclamée, si l'évangile qu'il a prêché ne sont qu'illusion, et s'il a souffert jusqu'à donner sa vie pour une illusion, alors il n'y a pas plus fou que le grand apôtre Paul. Quand les croyants de tous les temps, à l'exemple de leur Seigneur, ont souvent tout donné, tout abandonné pour rester fidèles à leur foi, et quand ils ont parfois enduré de terribles persécutions, supporté d'horribles tortures, accepté de souffrir en chrétien, de porter l'opprobre de Christ, tout cela et plus encore pour un ciel, pour une patrie, pour un héritage qui ne serait qu'une illusion. Si la promesse d'une vie meilleure, dans un monde meilleur, n'est qu'une illusion, alors le Dieu qui a fait la promesse aussi n'est qu'une illusion. Et si Dieu est illusion, Israël est illusion, l'Église est illusion, la Bible est illusion, la foi est illusion. Par conséquent, si tout est illusion, tous ces fidèles témoins ont cru en vain, et si c'est en vain qu'ils ont cru, alors il n'y a pas plus fou que tous les croyants de tous les temps, Abraham et nous tous, y compris. Si Dieu est illusion, l'homme aussi est illusion. Et si l'homme est illusion, le monde, avec tout ce qu'il renferme, n'est plus que l'illusion d'une illusion. Et pourquoi ? Parce que l'homme qui n'est qu'une illusion ne peut voir que des illusions, ne peut vivre que d'illusions, rien que d'illusions. Car comment une illusion pourrait-elle saisir autre chose qu'une illusion ? Mes chers amis, s'il en est ainsi, alors pourquoi s'en fait-on ? De quoi se plaint-on ? Miséricorde insondable. Voyez-vous, si l'homme pur produit d'une illusion se donne tant de mal, se fait tant de mauvais sang pour un monde, pour une vie qui n'est que l'illusion d'une illusion, alors il n'y a pas plus fou que l'homme. Et la Bible a mille fois raison quand elle affirme « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Mais pourquoi l'insensé se perçoit-il qu'il n'y a pas de Dieu ? C'est évident. En effet, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas non plus de Jésus, ni de résurrection, et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y aura pas non plus de jugement dernier, qui sera rendu par un juge suprême, qui fera triompher la justice, puisque tout n'est qu'illusion d'une illusion. Et par conséquent, qu'importe la vie qu'on mène, la religion que l'on pratique, la morale que l'on adopte, les folies que l'on peut faire, la méchanceté que l'on peut manifester, la haine, la violence, la terreur, le meurtre qui se multiplient à n'en plus finir. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Tout cela et plus encore n'a plus aucune espèce d'importance, puisque tout n'est que l'illusion d'une illusion. Ainsi, si tel est le cas, tout est permis. Même les pires atrocités, les pires immoralités, rien n'est défendu, rien n'est empêché, rien n'est jugé ni condamné, c'est le chaos absolu. Mais cela ne devrait rien faire, rien du tout, n'engendrer aucune conséquence, ni bonne ou mauvaise, puisqu'il n'y a ni mal ni bien, et il n'y a ni mal ni bien puisqu'il n'y a plus de Dieu. De fait, tout, absolument tout, n'est que folie trompeuse, existence purement illusoire, chimère des chimères, aliénation mentale, hallucination générale, délire naturel, et que sais-je encore. Bref, l'illusion d'une illusion. Et face à la violence présente, face au désordre de toutes sortes, Face à la confusion universelle actuelle, à l'absence de repères, de principes moraux, face à la misère qui règne dans notre monde d'aujourd'hui, l'homme riche de notre histoire ne fait-il pas figure d'enfant de cœur? Pourtant, c'est dans l'enfer qu'il s'est réveillé. Et si l'homme riche s'est réveillé dans l'enfer et qu'il a supplié Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères, ne serait-ce pas la preuve que la résurrection de Jésus-Christ, que Dieu, que le ciel, que l'enfer, que l'au-delà, sont plus, beaucoup plus qu'une stupide illusion? Puisque l'eau est réelle, je veux bien boire un peu. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas étrange que les hommes qui considèrent Dieu comme quantité négligeable, comme irréel, comme invention religieuse, bref, comme une illusion, sont les premiers à vouloir se défendre contre tous ceux qui leur font du mal, prêts à les juger, à les condamner au pilori ou à les jeter en prison? Dieu est mort. Jésus et sa résurrection ne sont qu'imagination de l'esprit. L'Église n'est qu'une béquille morale pour personnes faibles ou âgées. Pardonnez-moi. Israël n'est qu'une invention du sionisme. Il est l'ennemi du monde. La Bible n'est que parole d'homme. La foi n'est qu'un baume pour cœur brisé. Les chrétiens ne sont que des rêveurs mystiques. En un mot commençant, on rejette Dieu et tout ce que cela implique, mais curieusement, les hommes voudraient quand même vivre en sécurité et en paix, comme si Dieu existait et maîtrisait tout. Quelle incohérence dans les pensées, quelle contradiction dans les paroles, et quelle inconséquence dans les actes des hommes. Ils agissent ainsi parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, égarés par leur intelligence obscurcie par le mal et par leur cœur endurci par le péché. Subjugués par les mirages trompeurs de Satan, ils se vantent d'être sages. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus fous. Alors en tant qu'insensés, selon l'Écriture, ils disent en leur cœur, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de Dieu. C'est dire à quel point Satan est capable de séduire la multitude par sa ruse maligne et les perdre dans la nuit de dehors, dans les ténèbres du péché et de la mort. Je pourrais m'arrêter là, hein? Mais maintenant, j'aime bien ce « mais maintenant » de 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, alléluia. Heureusement que ce « mais maintenant » est dans la Bible, et il y est plusieurs fois. Mais maintenant, la résurrection, mais maintenant, quoi qu'en pensent les sages de ce siècle, les moqueurs de tous les temps, quoi qu'en disent les incrédules, les impénitents, le monde voué au diable, et malgré toutes les manigances de l'ennemi, Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Gloire à Dieu. Ainsi donc, la résurrection est une réalité incontournable, incontestable. Elle est l'événement historique le mieux attesté en son temps et dans tous les siècles successifs. Elle est prouvée par la Bible, parole inspirée, qui fait écho à la parole incarnée, qui la confirme absolument, totalement. Et tous les deux sont incorruptibles et indestructibles, la parole incarnée comme la parole inspirée. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de les détruire. Mais celui qui a essayé s'est détruit lui-même, et ce seul élément devrait déjà nous faire réfléchir. La résurrection est affirmée encore par les disciples, puis par tous les témoins de Dieu, de tous les temps, qui ont démontré par leur foi et par leur vie consacrée, d'une manière irrécusable, que la résurrection est une évidence qui saute aux yeux, pour peu qu'on veuille bien les ouvrir. De plus, l'histoire témoigne, on ne peut plus clairement, malgré tous ceux qui rejettent l'évidence, c'est-à-dire les bienfaits immenses engendrés dans l'humanité tout entière par l'Église, corps de Christ. Ces œuvres chrétiennes, ces bienfaits universels, apportent la preuve visible et tangible que la résurrection de Jésus, la parole incarnée, soutenue et entretenue par la Bible, parole inspirée, est réellement authentique. Il suffit pour cela de considérer les disciples avant et après la résurrection. Avant, ils étaient faibles et peureux. Après, ils sont devenus forts, courageux, témoins vivants d'un Christ vivant. Ils prêchaient partout, envers et contre tout, que Jésus est réellement ressuscité. Ils ont proclamé, et tous les serviteurs de Dieu après eux, tout ce qui concerne le Christ, son incarnation, sa naissance miraculeuse, sa personne merveilleuse, à la fois divine et humaine, sa parole étonnante, inoubliable, ses œuvres glorieuses, tous les signes, les miracles, les prodiges qu'il a accomplis au nom de son Père, la multiplication des pains, la guérison des aveugles, la résurrection des morts, la maîtrise des éléments naturels, et que sais-je encore. Ils ont encore rappelé sa fonction de roi, Seigneur, sa vocation de prophète et apôtre de la foi, son office de souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, son ministère de compassion et de guérison, sa mission de messie sauveur, de rédempteur du genre humain, sans oublier son service sacrificiel, conformément à la volonté de son Père, être l'agneau de Dieu, qui la victime expiatoire qui ôte le péché du monde. Et les résultats excellents, évidents, ne se sont pas fait attendre. Ces résultats ont affirmé et confirmé la puissance de résurrection régénératrice, réparatrice de Jésus et de sa parole. Par quoi cette résurrection a-t-elle été confirmée? Par la transformation des cœurs des hommes, du cœur des hommes, et par là l'amélioration des mœurs. Le développement de la justice, la paix sociale, l'abolition de l'esclavage, sans oublier l'évolution positive de la politique, de l'économie et de tout ce que cela induit au plan du bien-être. La généralisation de l'instruction publique, la construction des écoles, des hôpitaux, des asiles, est réalité inestimable, le fondement institutionnel de la liberté individuelle d'expression, de conscience et de culte. Et que sais-je encore? Qui pourrait dire combien d'hommes et de femmes, des jeunes et des moins jeunes, ont été délivrés des liens du diable, de toutes sortes de dépendances, sauvés d'une misère effroyable, de la pauvreté, de la précarité, de la maladie et de la mort, ou sauvés du péché de l'enfer? Bref, il est quasiment impossible de mesurer l'étendue bénéfique, libératrice, constructive, induite par la vie nouvelle, engendrée par la foi, à cause de la résurrection. Et aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, l'augmentation régulière de la population chrétienne, dans le vrai sens du terme, qu'a produit dans le monde la parole de Dieu, annoncée et vécue par tous les croyants. Et l'on voudrait nous faire croire que ce n'est pas là la réalité historique. Ah, qui oserait démentir tout cela, et plus encore devant des preuves aussi accablantes que nous donne l'histoire par l'Église en mission dans ce monde pour le Christ Jésus et pour la gloire de Dieu. Oui, mille fois oui. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La réalité de la résurrection de Jésus est certaine. Elle est partout présente. Elle agit en tout et partout. Elle pénètre tous les domaines de la vie, s'infiltre dans tous les niveaux de la société. Elle influence toutes les contingences terrestres à des degrés divers par son message de Pâques, apporté dans le monde entier par la chrétienté véritable et fidèle et moins fidèle. personne n'ose dire « Objection, votre honneur. » C'est impossible. D'ailleurs, ce n'est pas difficile à saisir. Si la résurrection de Jésus n'existait pas, l'humanité ne serait plus. Car les hommes se seraient, depuis longtemps déjà, entretués. D'ailleurs, n'est-ce pas exactement ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on fait comme si la résurrection n'existait pas. Encore un peu de temps et tout le monde est tué. Il y a encore l'application. Vous supportez encore quelques minutes? Et que dire en ce qui nous concerne? Que dire? Hausser les épaules? Non. Elle est pour nous. Ah, frères et sœurs. Elle est pour nous. Cette puissance de résurrection, cette puissance qui transforme la mort en source de vie, la faiblesse en force, le renoncement en richesse, la petitesse en grandeur, l'humiliation en gloire, la tristesse en joie, l'inimitié en paix, l'impatience en patience, le doute en foi, le chagrin en bonheur, la solitude en compagnie, la tentation en victoire, le mal en bien et que sais-je encore, selon un principe immuable et voulu de Dieu, à savoir... que pour être vide, le tombeau devait d'abord être occupé. Autrement dit, si nous voulons ressusciter, nous devons d'abord mourir, comme on l'a entendu dans la prière. Sans mort, pas de vie. Sans la croix, pas de couronne. Sans le combat, pas de victoire. Sans la faiblesse, pas de force. Sans humiliation, pas de gloire. Telle est la leçon du tombeau vide. En effet, c'est en donnant que l'on reçoit. En aimant que l'on est aimé. En aidant que l'on est aidé. En s'abaissant que l'on est élevé. En abandonnant sa vie qu'on la retrouve. En mourant que l'on ressuscite. Ainsi donc, quand dans notre vie tout semblera triste, morne et triste, que découragé par la multitude de circonstances adverses, que fatigué par le nombre croissant de situations difficiles, soit personnelles, soit professionnelles, familiales ou ecclésiales, ou encore sociales, alors doucement, tendrement, Jésus nous dira, viens, viens dans la tombe et vois et crois. N'est-elle pas vide? Ne suis-je pas ressuscité? Et ma résurrection n'est-elle pas la preuve, la garantie que je suis vivant? Par conséquent, je suis toujours présent, toujours compétent pour vous aider, pour vous encourager, pour vous consoler, pour renouveler vos forces, pour vous relever quand vous tombez, pour vous pardonner quand vous péchez, pour vous corriger quand vous vous trompez, pour vous ramener quand vous vous égarez, pour vous porter quand vous êtes fatigué, pour vous encourager quand vous êtes éprouvé, pour vous aimer et vous aider par-dessus tout autre chose, pour vous amener au ciel, puisque vous êtes ressuscité avec moi. C'est pourquoi nous ne vivrons désormais plus sans espoir, sans but, sans perspective. Au contraire, nous posséderons la ferme assurance qu'une vie meilleure, dans un monde meilleur, nous est réservée dans les cieux. Et en attendant, Jésus nous rappelle ceci. Ton cœur est-il lassé? Fatigué du chemin? Alors rappelle-toi, le tombeau est vide, je suis vivant. Ton cœur est-il assailli par le doute? Ta route te semble-t-elle interminable? Alors rappelle-toi, le tombeau est vide, je suis vivant. Ton cœur est-il écrasé par les soucis de tous les jours, par le chagrin, par les difficultés sans fin? Alors rappelle-toi, le tombeau est vide. Je suis vivant. Ton cœur est-il faible, succombant aux tentations et ne goûtant la victoire que trop rarement? Alors rappelle-toi, le tombeau est vide. Je suis vivant. Ton cœur est-il désemparé parce que tu te sens seul, abandonné, rejeté, méprisé, incompris, mal aimé? Alors rappelle-toi, rappelle-toi, le tombeau est vide. Je suis vivant. La lourde pierre du tombeau a été ôtée. Oui, la pierre d'incrédulité est ôtée à tout jamais. La pierre d'incapacité est ôtée à tout jamais. Oui, la pierre d'infidélité est ôtée à tout jamais. La pierre d'impossibilité est ôtée à tout jamais. Désormais, tout est possible à Dieu pour celui qui croit et qui, par la puissance de la résurrection, croit tout et espère tout. Et parce que le tombeau est vide et que je suis vivant à jamais, je peux vous faire vivre dans la puissance de ma résurrection aujourd'hui, demain et encore peut-être 15 jours. Aujourd'hui, demain, toujours. Amen. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Gloire à Dieu. À lui l'honneur, la puissance, la vie et pour toujours. Amen.